Hongrie, comme la Russie, comme le Brésil, comme l'Argentine, etc. Mais je voudrais dire quelques mots sur la France. Il se trouve que j'étais avant-hier témoin, expert, dans un procès qui est intenté par Jean-Michel Blanquer à une collègue universitaire, Barbara Stiegler, parce que lorsqu'il a repris son attaque contre le monde universitaire en parlant de complicité intellectuelle avec le terrorisme, il l'avait déjà fait le lendemain, quelques jours après la mort de Samuel Paty en 2020, et il l'a refait en 2023, le jour même de la mort de Dominique Bernard. Et cette collègue, Barbara Stiegler, s'en est indignée sur Twitter, et en particulier en parlant de cette ordure de Jean-Michel Blanquer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jean-Michel Blanquer s'en prenne à elle, alors qu'il y a d'autres insultes bien plus graves qui ont pu être proférées contre lui, par exemple lorsque Éric Zemmour le comparait au docteur Mengele, de sinistre mémoire à Auschwitz. Et là, il n'y avait pas de poursuite en justice. Contre cet universitaire, il y a des poursuites en justice, et même, alors qu'il a perdu en première instance, en appel. Je crois que ça participe d'un climat politique qui vise spécifiquement les universitaires. Aux États-Unis, on a vu que le vice-président J.D. Vance a déclaré en 2021 que les universités, c'est l'ennemi. Eh bien, je crois que le président de la République en France, en 2020, l'avait précédé en disant que les universitaires cassent la République en deux. C'est un contexte politique qui, je crois, est important, qui a bien sûr redoublé depuis le 7 octobre. Et on voit qu'en France, on a une proposition de loi qui est en train d'être adoptée et qui va redéfinir, en particulier, sous couvert de lutter contre l'antisémitisme, beaucoup plus que contre le racisme, mais qui va redéfinir l'antisémitisme à partir de la définition de l'Alliance internationale pour le racisme. Or, je vois que je reçois en même temps un document de l'Association internationale de sociologie qui, à nouveau, prend position en solidarité avec le peuple palestinien, mais en particulier d'un point de vue universitaire. Et je me demandais si un tel document deviendrait bientôt illégal en France, étant donné cette redéfinition. Donc, nous sommes concernés. Alors, nous sommes concernés pas seulement de manière intellectuelle, ça implique des engagements, mais ce n'est pas ce que je vais développer ici. Je vais essayer, pour ne pas prendre trop de temps, de rester focalisé sur la question de la définition des libertés académiques, pour essayer de voir comment ça peut être un outil pour nous pour réfléchir aujourd'hui. En partant peut-être d'une remarque, c'est que pour ma part, mais je crois que je ne suis pas le seul, il y a très peu de temps que je me suis mis à réfléchir à ce que ça voulait dire exactement les libertés académiques. Parce qu'au fond, pour moi, tout ça c'était un peu la même chose que la liberté d'expression, c'est-à-dire c'était la liberté. Je n'avais pas réfléchi précisément, et je crois que, comme d'autres, j'y réfléchis aujourd'hui beaucoup plus précisément parce que la liberté académique, ou les libertés académiques, que je revendique pour ma part le pluriel, sont menacées. Alors, ce que je vais peut-être commencer par rappeler, même si peut-être c'est familier pour beaucoup d'entre vous, c'est une sorte de cadre politique, mais ensuite un cadre intellectuel. Le cadre politique idéologique, si vous voulez, de l'analyse que je vais proposer, c'est qu'il y a aujourd'hui la convergence entre deux logiques d'attaque contre le monde universitaire. Des logiques d'un côté qu'on dira néolibérales. Ces logiques néolibérales, eh bien, nous les voyons à l'œuvre tous les jours dans nos pratiques. C'est-à-dire, nous avons le sentiment qu'il faut ramer à contre-courant. On le voit bien pour avoir des postes, on le voit bien pour tous les dossiers que nous devons remplir, pour un milliard de choses dont beaucoup sont inutiles, etc. Ça pose un problème particulier, enfin ça pose des problèmes sans doute pour tout le monde dans le monde universitaire, mais ça pose un problème peut-être exacerbé pour les savoirs critiques, parce que les savoirs critiques, c'est-à-dire ceux qui interrogent l'évidence de l'ordre social, qui se posent des questions sur pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est pas autrement, eh bien ces savoirs critiques, ils sont visés d'un point de vue néolibéral parce qu'ils apparaissent inutiles. Ça a l'air d'être une perte de temps et une perte d'argent. fait, bien que ce soit en général des savoirs qui ne coûtent pas cher, parce qu'il n'y a pas de machine, il n'y a pas forcément de grandes enquêtes, etc., ces savoirs relativement peu onéreux sont en même temps ceux qui ont le plus de mal à obtenir de petits financements. Je crois que c'est directement lié à l'idée que les savoirs critiques, c'est juste une perte de temps d'un point de vue néolibéral. On ferait mieux de faire autre chose. On ferait mieux d'être des experts plutôt que d'être des intellectuels critiques. Mais il y a en même temps une autre logique qui est celle du néofascisme. Et pour le néofascisme, les savoirs critiques, ils sont dangereux. Ils sont attaqués en tant que tels. C'est-à-dire, ça n'est pas simplement qu'on va essayer de les réduire parce qu'on se dit que c'est du gâchis, mais c'est qu'on pense que ça risque de pervertir la jeunesse. Or, on voit aujourd'hui que ces deux logiques, elles peuvent converger, et c'est à nouveau l'exemple que je prenais du président de la République lorsqu'il s'inquiétait de la responsabilité des universitaires. Ce président qui se veut plutôt libéral, tout en pratiquant une politique néolibérale, ici, reprenait des argumentaires sur le danger des savoirs critiques qui participent bien davantage d'une rhétorique réactionnaire, voire aujourd'hui, à l'époque de Trump, néofasciste. Donc maintenant, avec ce cadre intellectuel de convergence entre des logiques néofascistes et néolibérales, je voudrais donner un rappel de ce que c'est du point de vue du droit français que les libertés académiques. Avec ce paradoxe, mais qui correspond un petit peu sans doute à ce que je vous disais à l'instant, que le mot, l'expression « liberté académique » est entré tout récemment dans le vocabulaire du droit. C'est avec la LPR, la loi de programmation de la recherche de 2020. Je vous lis le texte. Les libertés académiques sont le gage de l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche française. Elles s'exercent conformément aux principes à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs. Donc c'est la première formulation. C'est paradoxal puisque la loi de programmation de la recherche, à bien des égards, visait à entraver, je n'entrerai pas dans les détails, les libertés académiques. Mais c'est au moment de les entraver qu'on les reconnaissait. D'ailleurs, il y avait un amendement qui, heureusement, a finalement été retiré, et qui a fait beaucoup de bruit, qui disait que les libertés académiques s'exercent dans le respect des valeurs de la République. Autrement dit, au lieu d'être un principe constitutionnel, c'était un principe qui était soumis à l'appréciation de ceux qui allaient dire si c'était conforme aux valeurs de la République. Nous venons de voir, par exemple, à Grenoble, que le président de l'université a invoqué justement le fait que l'université incarne les principes républicains pour retirer des messages qui portaient sur le racisme et qui, selon lui, relevaient du racisme anti-blanc. Je ne me lancerai pas ici dans une discussion sur la non-existence du racisme anti-blanc du point de vue des sciences sociales, même si aujourd'hui ça existe du point de vue du droit. Mais je voulais rappeler cet exemple pour montrer que même si le principe n'a pas été adopté, il peut être mis en œuvre par un président d'université qui prétend incarner les valeurs de la République sans bien sûr préciser quelles elles sont, puisqu'il en devient l'arbitre. C'est l'illustration du danger que représentait cet amendement. Sur quoi repose cette définition des libertés académiques dans le droit? Eh bien sur un principe antérieur qui n'était pas nommé de la même manière, mais qui est d'une loi de 1984 sur l'enseignement supérieur et d'une décision du Conseil constitutionnel qui date également de 1984. Je vous lis juste un paragraphe. Considérant que par leur nature même, les fonctions d'enseignement et de recherche non seulement permettent, mais demandent dans l'intérêt même du service que la libre expression et l'indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables, que l'article 57 de la loi, donc c'est la loi de 84 dont parle le Conseil constitutionnel, fait dans leur principe droit à ces exigences en disposant, je cite la loi, « les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et dans leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes de tolérance et d'objectivité. Notez au passage, j'y reviendrai, qu'il s'agit d'objectivité et non pas de neutralité. La distinction est très importante pour nous aujourd'hui. » Alors, après ce rappel purement factuel, Je voudrais maintenant essayer de réfléchir rapidement à la différence entre liberté académique et liberté d'expression. Je vous le disais, nous avons tendance à mettre tout ça un peu dans le même sac, mais je crois qu'il est important de distinguer. Pourquoi? Ben d'abord pour des raisons politiques, parce qu'aujourd'hui, c'est la droite et l'extrême droite qui se réclament de la liberté d'expression. On a vu toutes les offensives contre le wokisme, contre la cancel culture, etc. C'est la gauche qui est accusée de participer d'un maccartisme, et on parle d'un maccartisme de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire, la liberté d'expression, dans ce cas-là? Eh bien, ça veut dire la liberté de dire, de tenir des propos racistes, par exemple. C'est ce qu'on a beaucoup vu sur des campus américains. Au nom de la liberté d'expression, il s'agit finalement d'en revenir à l'idée qu'on pourrait dire les pires horreurs. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait étranger en France, c'est-à-dire qu'on voit une volonté de défendre l'idée qu'on a quand même bien le droit de dire ce que les gens pensent tout bas. Alors, qu'en est-il des libertés académiques si on les distingue, quitte dans certains cas à les opposer ou à les mettre en tension avec la liberté d'expression? Qu'en est-il de la liberté académique? Je prends dans le cas des États-Unis où la question a été davantage discutée par le droit. C'est un droit qui est plus fort que celui de la liberté d'expression. Pourquoi? Parce que la liberté d'expression, ça veut dire qu'on ne peut pas être poursuivi en justice aux États-Unis, même pour arborer des signes nazis. On peut être poursuivi si on a l'impression que c'est un appel au meurtre, bien sûr, mais en tout cas, l'expression en elle-même, pour autant qu'elle n'est pas considérée comme un acte ou comme pouvant entraîner des actes, comme le fait par exemple de crier au feu dans un cinéma, c'est une décision célèbre de la Cour suprême, eh bien, tant qu'on en est au discours, on peut tout dire. Sauf que le fait de ne pas être poursuivi en justice ne veut pas dire qu'on va garder son emploi. On peut être licencié. La grande différence, c'est que les libertés académiques, eh bien, c'est la garantie de ne pas être licencié. En principe, bien sûr. Mais c'est l'intérêt des libertés académiques, c'est que non seulement on a le droit de le dire sans être poursuivi en justice, mais on a le droit de le dire sans perdre son emploi. Et ça renvoie à une histoire qui est très importante aux États-Unis, avec, dès 1915, la constitution d'une association professionnelle des professeurs d'université autour de la question de la liberté académique, donc en anglais au singulier. Je reviendrai sur la raison pour laquelle je parle au pluriel en français. La liberté académique en anglais, eh bien, elle est directement liée en 1915 à la tenure, c'est-à-dire au fait d'être titulaire. Cette association se constitue pour lutter contre le fait que les employeurs, puisqu'on est souvent dans des universités privées, pour que les employeurs puissent licencier à leur gré des universitaires qui défendraient des opinions qu'ils ne partagent pas. Il est donc très important d'être titulaire et l'Association américaine des professeurs d'université distingue bien en disant les professeurs ne sont pas des employés. Ils sont plutôt comme des juges qui ont été nommés et qu'on ne peut donc pas révoquer. C'est important au moment où, de plus en plus, il y a une sorte de privatisation du monde universitaire qui fait que nous sommes de plus en plus en train d'évoluer vers quelque chose qui serait le fait que nous serions des employés comme les autres. Je crois qu'il est très important de voir que la liberté académique, au singulier ou au pluriel, elle est liée au fait de pouvoir revendiquer que, comme le dit la loi de 1984, comme le dit la décision du Conseil constitutionnel de 1984, eh bien, non seulement c'est quelque chose qui est permis, mais c'est quelque chose que demande la fonction d'enseignant-chercheur. C'est cette liberté pour pouvoir précisément faire son métier. Ça n'est pas dérogatoire, c'est que c'est consubstantiel au métier universitaire. Alors, si on veut, au-delà de ce constat de la différence entre liberté d'expression et liberté académique, si on veut réfléchir, on va dire plus théoriquement, c'est quoi au fond la différence entre les deux? Et pour ma part, je propose une différence qui me paraît simple, mais j'espère productive, c'est que la liberté d'expression, c'est la liberté de tout dire, dans les limites de la loi, qui évidemment sont variables d'un pays à l'autre. C'est la liberté de tout dire, y compris n'importe quoi. C'est ce qui fait que, si vous ouvrez la télévision, vous avez la chance d'écouter Cyril Hanouna ou d'entendre Éric Zemmour, etc. Donc, on peut dire n'importe quoi. C'est la liberté d'expression. La liberté ou les libertés académiques, c'est quoi? Eh bien, c'est la liberté de tout dire, dans les limites de la loi. Donc, pour l'instant, c'est la même chose. Mais la différence, c'est à condition que ce ne soit pas n'importe quoi. Autrement dit, la contrepartie de cette protection plus grande, c'est une exigence plus grande. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que les universitaires ne disent jamais n'importe quoi. Mais ça veut dire que ce qui justifie les libertés académiques, c'est l'exigence de ne pas dire n'importe quoi. Et encore une fois, il va de soi que... Je crois que tout le monde sera d'accord, si peut-être tout le monde n'est pas d'accord sur la liste des gens qui disent n'importe quoi, mais tout le monde sera d'accord pour dire que certains disent n'importe quoi. Pourquoi me paraît-il important de dire qu'il n'est pas légitime de dire n'importe quoi dans le monde universitaire? Eh bien parce que ça a des conséquences, c'est-à-dire que nous avons besoin de crédit, c'est-à-dire d'une reconnaissance par nos pairs. Et cette reconnaissance par nos pairs, elle est fondée sur l'idée que nous essayons de ne pas dire n'importe quoi. Si je fais une erreur sur une date en vous parlant ce soir, ça n'est pas très grave, mais si toutes mes dates sont fausses et si j'ai inventé des faits, eh bien je me discrédite et donc c'est coûteux pour moi, donc j'ai intérêt à ne pas dire n'importe quoi, pour prendre cet exemple. Et je crois que c'est une des conditions du métier d'universitaire, c'est qu'au fond, c'est un métier où il n'y a pas beaucoup de pouvoir, où il n'y a pas beaucoup d'argent, mais où on peut espérer avoir une légitimité, c'est-à-dire pouvoir produire des énoncés qui aient une chance d'être entendus un peu plus. Parce que, justement, ils sont fondés sur l'idée que ce ne sont pas seulement des opinions, mais c'est fondé sur un savoir. Alors, ça pose une question, et c'est le point suivant, c'est les libertés académiques, c'est très bien, donc on donne des droits supplémentaires, mais pour protéger de quoi ou de qui? Et là, il y a une bataille théorique qui a lieu aujourd'hui, qui est aussi une bataille politique. La définition qui, à mes yeux, est la seule à avoir du sens, et historiquement, mais aussi dans l'actualité, c'est que la liberté académique, ou les libertés académiques, c'est ce qui protège contre les pouvoirs. Contre les pouvoirs économiques, contre les pouvoirs politiques. Il est important que les ministres ne puissent pas nous dire ce que nous devons dire. En particulier, on le voit lorsqu'il s'agit d'argent aussi. Il est très important que ce ne soit pas des gens qui vont financer des chaires qui pourraient ensuite avoir le droit de dicter ce qu'on peut dire ou ne pas dire. Alors la bataille politique, elle commence où? Elle commence justement avec l'idée qui, par exemple, a été reprise et développée par un collègue universitaire, juriste, Olivier Beau, qui, dans un ouvrage il y a quelques années, changeait sa position. Après avoir défendu les libertés universitaires contre les pouvoirs, il disait désormais, il parlait des pouvoirs, mais entre guillemets, pour dire que quand même il y avait aussi autre chose, c'était les menaces qui nous venaient des courants identitaires, multiculturalistes, des minorités, que ce soit au nom des questions de genre, de sexualité, de race, etc. Autrement dit, ce qu'il voulait dire, c'est que oui, bien sûr, il y a l'État, bien sûr, il y a la bureaucratie, bien sûr, il y a la pression de l'argent, mais enfin quand même, il y a aussi les étudiants. Et je crois qu'il est très important de ne pas considérer que les libertés académiques sont faites pour protéger les universitaires contre autre chose que les pouvoirs. Parce que effectivement, des étudiants peuvent venir perturber nos cours, par exemple, nous reprocher ceci ou cela, etc. C'est vrai, mais ce n'est pas ça qui va nous faire perdre nos postes ou nos financements. Ce qui peut nous faire perdre nos financements ou nos postes, Eh bien, ce sont les pouvoirs. Je crois qu'il est important de ne pas confondre tout. Or, précisément, c'est un des enjeux politiques majeurs aujourd'hui, c'est de faire comme si, au fond, le pouvoir de l'État, le pouvoir des milliardaires et le pouvoir des étudiants ou bien de tout autre groupe minoritaire seraient finalement équivalents. La leçon des sciences sociales, mais on ne les avait sans doute pas attendues pour le savoir, c'est que quand même, la domination, ça existe, et qu'on ne peut pas faire comme si tout était sur le même plan. Il est bien plus problématique d'être menacé par un ministre que d'avoir un étudiant qui peut-être nous insultera. Je ne m'en réjouis pas, je préfère ne pas être insulté par les étudiants, et a fortiori ne pas être menacé, mais en tout cas, ça ne me fait pas perdre mon poste, ça ne me fait pas perdre mes financements. Je crois qu'il est donc très important de ne pas faire comme si tout était réversible. Et c'est en particulier une critique que je porte contre l'expression « maccartisme de gauche ». Quand on dit « maccartisme de gauche », on fait comme si finalement il y avait un maccartisme de droite et un maccartisme de gauche. Oui, mais nous ne vivons pas dans une société où même les gauchistes les plus effrénés auraient le pouvoir, vous l'aurez sans doute remarqué, dans l'ensemble, dans le monde, aujourd'hui, la gauche n'est pas dominante. Et en tout cas, en France, il s'en faut beaucoup. Donc, si on accepte l'idée que c'est le pouvoir qui est important dans cette affaire, eh bien, on ne peut pas faire comme si c'était symétrique. On est obligé de s'intéresser sur qui a le pouvoir. Bien sûr, si on était dans l'Union soviétique stalinienne, à juste titre, on se poserait la question d'un maccartisme entre guillemets de gauche. Bien sûr, mais nous n'y sommes pas. Et je crois qu'il est important de ne pas penser de manière abstraite comme si les rapports de domination, justement, n'existaient pas. Je prendrai là-dessus un exemple à la première personne pour avoir été moi-même menacé. Eh bien, j'ai essayé de montrer, enfin, sur Twitter, par un néo-nazi de décapitation, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ça ne relevait pas de la liberté académique directement. Autrement dit, ce type pouvait bien sûr menacer ma vie, mais il ne menaçait ni mon emploi, ni mes financements. D'ailleurs, j'ai reçu la protection fonctionnelle de mon université. Donc ça ne veut pas dire que ce n'était pas un problème, mais ça veut dire que ce n'était pas le même problème. Et je crois que c'est très important parce que, en fait, ça permet de comprendre ensuite comment fonctionne le pouvoir, c'est-à-dire que pourquoi cet homme se sentait autorisé à me menacer à visage découvert, avec le nom de son employeur, sa photo, son nom à lui, etc. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il était dans un climat en France où justement le pouvoir politique menace les universitaires. Et c'est là que revient la question des libertés académiques, c'est-à-dire dans l'incitation par les ministres, par les gens puissants, à s'en prendre systématiquement aux universitaires. Et c'est bien la raison pour laquelle je suis allé témoigner contre Jean-Michel Blanquer il y a 2 jours. C'est bien de cela qu'il s'agit. Ça participe d'une campagne politique qui est également une campagne médiatique, mais qui est relayée par le politique jusqu'au président de la République, en passant par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, mais aussi en passant par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui nous a menacé une enquête sur l'islamo-gauchisme dans l'université, dans l'enseignement supérieur et la recherche. Bref, il est important de ne pas tout confondre, et en particulier de garder cette ligne de compréhension des choses, ça a à voir avec le pouvoir. Alors, quelles sont les conditions d'exercice des libertés académiques? C'est là qu'on voit qu'il ne s'agit pas seulement de la tenure, mais il s'agit aussi de la tenure, et par exemple le fait que nous vivions dans des universités où il y a de plus en plus de précaires, eh bien c'est un élément très important. Parce que, au fond, les précaires, ils peuvent craindre que leur poste ne soit pas renouvelé l'année suivante s'ils ont déplu. S'ils ou elles ont déplu. Donc on voit bien que la précarisation, qui est une logique néolibérale, elle peut avoir des effets très importants sur les libertés académiques. Mais on voit aussi que cette logique néolibérale, on la retrouve par exemple dans les évaluations récentes du HCERS, qui ont en quelque sorte disqualifié un ensemble de programmes dans différentes disciplines, en philosophie, en sciences sociales, dans de nombreuses universités, en particulier du quart nord-est de la France. Eh bien, ce qu'on voit là, c'est que ça se présente simplement comme des évaluations rationnelles. Mais en réalité, ce que ça veut dire, parce que ça n'est pas tombé par hasard sur certaines disciplines, c'est qu'il y avait un a priori qui d'ailleurs venait du gouvernement plutôt que de nos pairs, et bien que cet a priori, c'était que tout cela, ça ne servait à rien, comme je le disais tout à l'heure. Je voudrais maintenant parler du périmètre des libertés académiques. Et c'est là que ça justifie mon utilisation du pluriel. Alors, en anglais ou en allemand, c'est au singulier. Mais pour des raisons linguistiques, parce que Freiheit en allemand et Freedom en anglais, eh bien, ça ne tolère pas le pluriel. Alors, on pourrait dire liberties en particulier, mais bon, en tout cas, c'est une logique d'abord grammaticale. Mais au-delà de ce problème grammatical qui finalement n'est pas très important, la question fondamentale, c'est est-ce qu'on parle toujours de la même chose quand on parle de libertés académiques? Et je crois que ça dépend des moments et ça dépend des pays. Donc en particulier en allemand, il y avait une distinction qui était importante avec une double liberté qui était la Lehrfreiheit, c'est-à-dire celle des enseignants, et la Lernfreiheit, c'est-à-dire celle des étudiants. Aujourd'hui, que ce soit en France, en Allemagne ou aux États-Unis, la Lernfreiheit, c'est-à-dire celle des étudiants, ne fait plus partie des libertés académiques du point de vue des pratiques à la fois des associations professionnelles et du droit, etc. Je ne dis pas que ce soit justifié, mais en tout cas, le fait est que ça n'est plus le même périmètre. Il y a une autre question, c'est est-ce qu'on parle uniquement du monde universitaire? Et c'est important pour la CALAP, et c'est une question que, pour ma part, j'ai soulevée depuis le début, puisqu'on parle à la fois des libertés académiques et de libertés pédagogiques. Mais évidemment, ce n'est pas la même chose. Ça n'est pas défini de la même manière. On n'a pas la même liberté lorsqu'on est enseignant dans le secondaire ou lorsqu'on est enseignant à l'université. Ça n'est pas forcément le cas, puisque, par exemple, pendant le maccartisme historique, il y a eu des décisions de justice qui pouvaient concerner aussi bien des universitaires que des profs du secondaire. Donc il n'y a aucune nécessité à ces partages. Ce sont des choix qui sont faits à des moments historiques et qui sont variables. Mais encore une fois, ça justifie ces périmètres variables, à mon sens, d'utiliser le pluriel. On peut aussi se poser la question, même dans l'université, est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que c'est seulement les professeurs titulaires? C'est-à-dire, quelle est la liberté académique des précaires? Encore une fois, je ne me réjouis pas que ce ne soit pas forcément un droit qui leur soit reconnu, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, on doit s'interroger sur quel est le périmètre. Je prendrai une autre question qui est très importante, qui est celle, en France, de l'autogouvernement des universités. Ça veut dire la collégialité, les décisions sont prises au niveau de l'université, mais aussi la cooptation, c'est-à-dire qu'en général, ce sont les universitaires qui choisissent leurs collègues, selon des procédures complexes, etc. Or ça, ce n'est pas forcément le cas aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, dans les universités, eh bien, il n'y a pas la collégialité. Autrement dit, en particulier, les présidents, présidentes d'université ne sont pas élus par la communauté universitaire. C'est important si on veut comprendre ce qui s'est passé autour de la présidente de Harvard, mais aussi de Columbia, mais aussi de Penn, qui ont été amenés à démissionner. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elles dépendaient non pas d'une communauté universitaire qui les aurait élus, mais d'un board, d'un conseil d'administration qui est pour l'essentiel extérieur au monde universitaire. En France aussi, il y a des établissements qui sont régis dans une logique un peu comparable. C'est le cas de Sciences Po, par exemple. Et ce n'est sans doute pas hasard si c'est à Sciences Po qu'il y a eu une offensive gouvernementale particulièrement virulente contre les libertés académiques au moment d'une accusation en mars 2024 d'antisémitisme de la part d'élèves de Sciences Po. Donc, c'est important aussi de voir que l'autogouvernement, ça n'est pas donné d'avance. Et d'ailleurs, en France, on a vu qu'en réaction à ce qui se passait à Sciences Po, on avait un sénateur qui commençait à expliquer que finalement, ce serait pas mal de faire élire, les présidents d'université en France, pour qu'ils soient plus libres, disait-il, non sans ironie, une ironie manifestement inconsciente, pour qu'il soit plus libre, il vaudrait mieux qu'il soit nommé par le gouvernement. Et il rappelait que c'était le principe qui avait été envisagé au moment de la loi Pécresse. Il y a une autre question qui est dans ce périmètre, quelle est la place de ce qu'on appelle en anglais une liberté extramural? C'est pas extramuros en fait. C'est plutôt quelque chose qui serait extra-universitaire. Pour l'expliquer, je prendrai un exemple qui est celui de Pierre Vidal-Naquet. Lorsque Pierre Vidal-Naquet, le grand historien de l'Antiquité, mais aussi très engagé contre le négationnisme, quand il intervient contre le négationnisme, il le fait à partir de sa compétence d'historien, même s'il n'est pas un spécialiste. Donc là, il fait appel à une compétence particulière. Lorsqu'il intervient contre la torture en Algérie, c'est autre chose. Il intervient en tant que citoyen. Non pas en tant qu'historien, mais en tant que citoyen. Donc il peut y avoir deux registres. Dans un cas, on est dans la liberté d'expression. Tous les citoyens ont quelque chose à dire directement sur la torture. Sur le négationnisme, bien sûr, tous les citoyens aussi, mais le fait d'avoir une compétence d'historien qu'on puisse mobiliser, eh bien, c'est quelque chose qui relève à ce moment-là de la liberté académique. J'ai fait un inventaire rapide de tout ça, mais j'ajouterai un dernier élément pour montrer que, en fait, sur tous ces points, on voit aujourd'hui que les libertés académiques sont remises en cause. Le dernier point que je prendrai comme exemple, c'est ce qu'on appelle les franchises universitaires. Les franchises universitaires, ça veut dire un pouvoir juridictionnel et un pouvoir de police pour les universités. Or, en fait, on voit bien que de plus en plus, eh bien, la police va sur les campus. Et ce n'est pas seulement en France. Et que ce n'est pas simplement une pratique, c'est aussi une évolution du droit, puisqu'on a introduit des éléments dans le droit en France, dans des lois récentes, qui justifiaient des interventions plus fréquentes de la police. Donc tout ça, c'est une remise en cause des libertés académiques sur tous les fronts à la fois, que ce soit la précarité, que ce soit la police, que ce soit le recul sur l'autogouvernement avec des démissions de présidents d'université, etc. Tout cela, ce sont des reculs des libertés académiques. Alors, l'un des problèmes, bien sûr, dans les attaques contre l'université, c'est qu'on pourrait penser qu'elles viennent de l'extérieur de l'université, puisqu'elles viennent du pouvoir, mais elles viennent aussi de l'intérieur de l'université, puisque nous avons un certain nombre de collègues qui, manifestement, sont très contents d'alimenter le discours politique et qui le font en dénonçant l'islamo-gauchisme, etc. Vous le savez, il y a eu des dizaines de pétitions, il y a eu des manifestes signés par des centaines de collègues ou de collègues à la retraite plus souvent, etc. Bref, des attaques parfois très virulentes. Je rappelle régulièrement, non sans une certaine perplexité, qu'un collègue linguiste à la retraite me comparait à Hitler, et à chaque fois je tiens à préciser que ça me paraît un peu excessif comme comparaison. Les attaques, elles viennent aussi de l'intérieur de l'université. Et en particulier, le paradoxe, c'est que ces attaques, qui sont très souvent militantes, idéologiques, très ancrées à droite, eh bien, elles se font au nom de la neutralité axiologique. Et pour le dire vite, Max Weber a bon dos. C'est-à-dire que Max Weber, c'est pas la neutralité axiologique, d'ailleurs l'expression ne se trouve pas dans son œuvre. Il parle de Wertfreiheit, ce qui veut dire autre chose, ça a été traduit en français, et en particulier à l'instigation de Raymond Aron dans un contexte de guerre froide, ça a été traduit par neutralité axiologique comme une injonction qui était faite aux universitaires de ne pas verser dans le marxisme, pour le dire vite. Donc cette version française qui a donné le savant et politique, eh bien, c'est quelque chose en particulier qu'avec Caroline Ibos, nous critiquons dans un ouvrage à paraître, La savante et le politique, parce qu'il nous paraît important justement de faire une révision féministe de cette lecture trompeuse de Max Weber, mais au-delà de s'appuyer justement, pas seulement sur Max Weber, mais sur toutes sortes de traditions épistémologiques. Je ne développe pas ici, mais c'est un enjeu parce que, au fond, c'est un rappel à l'ordre au nom d'un père fondateur, et le terme n'est pas indifférent du point de vue des études de genre, au nom d'un père fondateur de nous dire qu'il ne faudrait pas se mêler de politique. Bien entendu, ça veut dire qu'il ne faudrait pas se mêler de politique, sauf de certaines manières qui conviennent à ses adversaires. Avant-dernier point, le rôle des disciplines. En fait, Jacques Derrida, au début des années 80, revendiquait l'université sans condition. Ça voulait dire quoi ? Eh bien, ça voulait dire que, au fond, il fallait une liberté qui aurait été presque plus proche de la liberté d'expression, c'est-à-dire, au fond, il valait mieux prendre le risque de dire n'importe quoi puisque de toute façon, le problème, disait-il, on n'était plus au XVIIIe siècle, à l'époque de Kant, où on pouvait avoir des potentats locaux qui interdisaient de parler de religion, etc. On n'en est plus là. Donc, disait-il, notre problème, c'est bien plus souvent, et bien sûr, je comprends ce qu'il voulait dire, c'est le caractère disciplinaire des disciplines. Et en particulier, le fait que les disciplines sont des rappels à l'ordre qui nous disent « ne faites pas ci, ne faites pas ça ». Et quand on est dans des champs d'études minoritaires, par exemple les études de genre, eh bien on sait que conquérir une légitimité n'est pas facile, en particulier bien sûr lorsqu'on est une femme ou lorsqu'on appartient à une minorité sexuelle, ça n'est pas facile parce qu'on peut considérer que tout ça c'est pas très scientifique, puisque d'ailleurs c'est plutôt politique. Et on retrouve la question de l'injonction à la neutralité axiologique. Mais les disciplines jouent un rôle ici qui est de considérer que certaines choses nouvelles, eh bien, ne sont pas dignes de trouver place dans la discipline. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une question qui reste toujours valide, et il y a eu des débats importants aux États-Unis, en particulier entre le juriste Robert Post, l'historienne Joan Scott et la philosophe Judith Butler sur ces questions. Je ne vais pas le développer ici, mais en tout cas, ce qu'on peut en retenir, c'est que la liberté académique ou les libertés académiques ne nous protègent pas contre nos collègues. C'est-à-dire que, en fait, elles nous protègent contre les pouvoirs. On peut espérer qu'il y ait d'autres manières de protéger des positions minoritaires dans le monde universitaire par rapport aux logiques majoritaires des disciplines. C'est bien sûr très important, mais ça n'est pas la même chose. Et encore une fois, la définition initiale des libertés académiques par rapport au pouvoir, c'est pas par rapport au pouvoir à l'intérieur de l'université, c'est surtout par rapport aux pouvoirs qui sont au-dessus de l'université. Encore une fois, il ne faut pas se dire que donc il n'y a pas de problème, mais simplement que les libertés académiques ne sont pas le meilleur instrument pour lutter contre les abus disciplinaires, c'est-à-dire le fait qu'on ne nous laisse pas tranquille quand on a envie de dire quelque chose qui est un peu différent de ce qui est attendu dans la discipline. Dernier élément, avant de conclure, la question pourquoi aujourd'hui le monde universitaire est-il attaqué? On pourrait se dire c'est malgré le fait que nous revendiquons de ne pas dire n'importe quoi. En réalité, ce que je veux suggérer, c'est que c'est à cause du fait que nous revendiquons de ne pas dire n'importe quoi. Dans un monde que le nom propre de Trump peut résumer, mais il n'est pas le seul. Dans ce monde-là, eh bien, le néofascisme il avance en disant « j'ai le droit de dire ce que je veux, je peux dire n'importe quoi ». C'est en particulier la politique des faits alternatifs. Ce qui n'est pas la même chose que les fake news. Les fake news, au fond, et j'utilise pour ma part la distinction qui a été proposée par un philosophe, Harry Frankfurt, dans un court essai qui s'appelle « On Bullshit », donc sur le bullshit ou n'importe quoi, eh bien, ce qu'il dit, c'est les gens qui mentent, au fond, respectent la vérité. Parce qu'ils veulent nous faire croire que ce qu'ils disent est vrai. En revanche, les gens qui racontent n'importe quoi, qui disent du bullshit, eh bien, ils n'essayent pas de nous faire croire que c'est vrai. Au contraire, ça fait partie de ce qui est amusant, de ce qui est intéressant, de ce qui distrait. Et on reconnaît bien là la politique qui peut être celle de Trump, qui peut être celle de Bolsonaro, qui peut être celle de Milley, etc. Il ne s'agit pas de vérité. Lorsque, par exemple, aux États-Unis pendant la campagne, on nous parle des chiens et des chats qui seraient mangés par des migrants haïtiens, on voit bien que les journaux essayent d'être dans le fact-checking. Ils vérifient, et c'est pas vrai. Mais ça ne change rien. Puisque toutes les personnes, disons, qui refusent le bullshit savaient déjà que ce n'était pas vrai. Donc, et les personnes qui, au contraire, épousent le bullshit continueront de répéter les mêmes histoires. Et c'est ce que revendique en particulier, à nouveau, le vice-président J.D. Vance en disant « ben voilà, je raconte une histoire ». Ça veut dire qu'on est sorti d'une logique de la vérité, de la vérification, de la construction empirique, de la construction théorique, etc. Tout cela disparaît. Et donc, ça n'est pas un hasard si les universités sont attaquées. Ça n'est pas malgré leur revendication d'essayer de dire des choses qui ne soient pas n'importe quoi. C'est à cause de cela. Et je conclus donc en disant que pour moi, ça participe d'un travail sur l'anti-intellectualisme qui concerne non seulement bien sûr les universités, mais qui concerne aussi le monde de l'édition, qui concerne aussi le monde médiatique. Je pourrais le développer davantage, mais ce que je veux dire, c'est que, au fond, l'anti-intellectualisme est une des armes majeures aujourd'hui contre la démocratie, parce qu'on nous ferait croire que les vraies élites, c'est des gens qui ont des diplômes. Que les vraies élites, c'est des gens qui sont capables d'utiliser des mots compliqués. Que les vraies élites, c'est des gens qui sont désireux de regarder des films étrangers, etc. Ou de manger du tofu. Cette arrogance supposée des élites culturelles, c'est une manière de ne pas prendre en compte la réalité que tout le monde peut constater, à savoir que les élites économiques ont un poids considérable et que, au fond, si on voulait nous faire croire que ce qui est véritablement discriminant dans la société, c'est le fait de faire des citations latines, eh bien, on ne comprendrait pas le pouvoir de gens comme Trump, Milley et les autres. Encore une fois, Cyril Hanouna me paraît récapituler cette évolution, c'est-à-dire le déclin du capital culturel, et le soutien de Bolloré dit bien l'importance du capital économique aujourd'hui. Donc pourquoi les universités? Eh bien précisément pour ces raisons-là, mais aussi pour une autre raison. C'est parce que quand on est universitaire, on parle à des jeunes. Et en fait, c'est une des grandes inquiétudes de nos politiques, c'est le fait que les universitaires, ils ont un contact avec la jeunesse, alors même que les politiques ont perdu le contact avec la jeunesse. La première intervention d'Emmanuel Macron en 2020 dans Le Monde sur les universitaires qui cassent la République en deux, c'était d'une part une inquiétude par rapport aux mobilisations du comité Adama Traoré au sortir du premier confinement, mais aussi plus généralement de la jeunesse. La jeunesse qui se pose des questions qui ne sont manifestement pas tout à fait les mêmes que les générations, disons, les gens de mon âge. Et je crois qu'il y a là quelque chose de très important et qui a été redoublé depuis le 7 octobre 2023, puisqu'on a constaté partout dans le monde un écart générationnel, c'est-à-dire les jeunes n'ont pas la même lecture de ce qui se passe au Moyen-Orient que les vieux. C'est un exemple qui vient redoubler d'autres, c'est sur les questions de genre, c'est sur les questions de race, c'est sur les questions coloniales, sur beaucoup de choses. Il y a un écart générationnel qui est constaté pas seulement en France, pas seulement aux États-Unis, mais dans de nombreux pays. Donc je crois que les attaques contre l'université, c'est non seulement de l'anti-intellectualisme, c'est aussi la peur de la jeunesse. Et on le voit bien aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que l'université? Je termine là-dessus. Ben, par rapport à la définition que j'ai donnée, enfin, quand je dis université, c'est avec un grand U, donc c'est un peu tout ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que l'université? C'est le point de rencontre entre la liberté d'expression et les libertés académiques. Nos étudiantes et nos étudiants, leur droit le plus fondamental, c'est la liberté d'expression, qui bien sûr n'est pas toujours respectée, nous le savons. Mais ils viennent avec cette liberté de tout dire, y compris n'importe quoi, parce que, au fond, ils arrivent d'abord avec des opinions, bien sûr avec des connaissances, mais l'opinion joue un rôle très important. Pour notre part, en tant qu'enseignants, chercheurs, eh bien, nous sommes porteurs et portés par les libertés académiques, c'est-à-dire, nous pouvons tout dire, mais à condition que ce ne soit pas n'importe quoi. Et donc, c'est une conversation autour de ça, c'est-à-dire, essayer de dire non pas, il faut être neutre, et vous l'aurez bien compris, je suis tout sauf neutre, et je soulignais tout à l'heure que c'est l'objectivité, non pas la neutralité, qui est l'élément crucial, mais donc, ce qui me paraît important, c'est que lorsque nous arrivons pour parler de liberté académique, ce que nous pouvons espérer, c'est que cette confrontation avec les étudiants, ça amène à dire pas exactement la même chose, même quand on est d'accord politiquement. Parce qu'au fond, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant, quelque chose à gagner, à essayer de développer un savoir de type académique. Et c'est ça qui justifie les libertés académiques. Ça ne veut pas dire que ça va neutraliser les gens qui vont essayer de développer ses savoirs, ça ne va pas les neutraliser. Mais ça va changer un peu le rapport aux choses, c'est-à-dire qu'il ce ne sera pas moins politique, mais ce sera différemment politique parce que ce sera en même temps savant, pour reprendre le terme qui est utilisé d'habitude, en opposant le savant au politique. Ce sera tout aussi politique, mais peut-être plus savant. Et donc c'est là l'intérêt de l'enseignement universitaire, c'est la confrontation entre deux logiques distinctes, garanties par des droits différents, la liberté d'expression et les libertés académiques. Quel est l'intérêt d'aller à l'université? Eh bien, pour des étudiants, c'est d'entendre quelque chose qui n'est pas forcément identique à ce qu'ils pensent déjà. Sinon, à quoi bon? Je vais m'arrêter là et je vous remercie, et en particulier je remercie Olivier d'accepter de, au pied levé de jouer ce rôle de discutant ou de, enfin, de tout autre terme qui conviendrait mieux.
Merci beaucoup pour cet éclairage critique qui était très, très pertinent et merci pour ces renvois à l'actualité qui le rendent vraiment très intéressant. Olivier, je te laisse la parole pour ton retour. Donc, on t'écoute.
Merci beaucoup. Merci Eric. Alors je vais pas être trop long et c'est pas un exercice qui m'est très familier, donc je vais quand même essayer de laisser de la place à la discussion entre nous et puis aussi avec le public ensuite. Et puis j'en profite aussi hein, pour remercier les organisateurs et les organisatrices pour ce séminaire qui est nécessaire par les temps qui courent. Alors avant de rentrer vraiment dans la discussion, je voudrais quand même donner quelques éléments de cadrage pour ce qui me concerne. Comme ça a été dit, je suis astrophysicien et encore une fois, je remercie les personnes qui ont organisé ce séminaire d'avoir fait confiance à un scientifique des sciences dures pour discuter le travail d'un sociologue. C'est une mission que j'accepte avec humilité. Et bien que je sois un lecteur, un observateur des sciences humaines et sociales, je ne suis pas un spécialiste ni de philosophie politique ni de sociologie, donc je vous demande votre bienveillance sur les aspects les plus techniques. Donc je parlerai avec ce regard d'observateur des sciences humaines et sociales, mais aussi en tant que scientifique, confronté moi-même aux attaques récentes contre la science, notamment aux États-Unis. Je pense que c'est important de rappeler que Donald Trump s'en est pris à l'ensemble des sciences, et notamment à mon domaine, hein, qui est l'astrophysique. Il y a eu des coupes drastiques aussi à la NASA dans le secteur des sciences du climat, mais aussi en astrophysique. Et donc moi-même, travaillant dans le cadre d'une mission américaine, le télescope spatial James Webb, je suis un témoin direct de la situation que vivent nos collègues aux États-Unis. Et ça fait écho avec ce que disait Eric aussi dans sa présentation, qui est que finalement, ce qui est attaqué, ça n'est pas forcément une discipline en particulier, mais c'est le rapport aux faits, de manière générale, qui constitue pour cette administration une menace. Alors j'interviens aussi avec une autre casquette, qui est ma casquette de militant, engagé pour la défense des sciences et des libertés académiques. Là je les ai mises au pluriel, on reviendra sur cet aspect peut-être. Engagé au sein de différents collectifs, donc Labo 1.5, qui concerne la question environnementale dans la recherche, et puis le collectif Rogue SR également, auquel j'ai participé. Et puis plus récemment, ça a été rappelé, le mouvement Stand Up for Science. Et donc, dans cette perspective, ce qui me semble intéressant de discuter, je crois, à la suite du séminaire d'Éric, et puis également de ses travaux, hein, donc je fais référence à son article « Liberté académique et démocratie »,« Tout dire, mais pas n'importe quoi », et puis donc son ouvrage « Misère de l'intellectualisme ». Donc dans ce contexte d'attaque croissante contre les libertés académiques, voilà, je pense qu'une dimension qui m'intéresse vraiment d'évoquer aujourd'hui, c'est celle de comment on peut faire d'un point de vue politique. Donc Éric, tu as parlé de Jacques Derrida, qui, et tu le rappelles dans ton article, dans un discours donné en 1980 à Columbia, dit « Aujourd'hui, surtout dans les régions que nous habitons, il semble bien qu'il n'y ait, sous la forme stricte que nous venons d'évoquer, et donc là il fait référence à une censure exercée sur Kant, hein, donc il lui semble que les universités ne se voit plus interdire la publication d'un discours par arrêté gouvernemental. » Alors, il y a des nuances qui sont apportées après, mais voilà, cette phrase d'absence de censure bien, c'est exactement ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec l'interdiction de certains mots dans les dossiers de demande de financement auprès de la NSF. Et donc, vous le savez, des termes comme genre, biais, etc. sont tout simplement bannis de ces documents universitaires. Donc, vous le savez aussi, à cela s'ajoutent des pressions multiples sur les universitaires et les étudiants, des révocations de visa, des licenciements dans les agences fédérales. Bref, c'est donc une attaque sans précédent contre les sciences qu'on observe. Alors, ça a été évoqué aussi, hein, la situation, elle n'est pas encore la même en France, si je puis dire. Alors, elle est loin d'être idéale et en particulier, on observe un glissement. Ça a été dit aussi, hein, il y a un certain nombre d'éléments hein, qui sont particulièrement inquiétants. Et ce glissement, on pourrait dire qu'il est semblable à celui qui a été opéré aux États-Unis sur les 20 ou 30 dernières années. En réalité, ce qui peut être très insidieux, c'est que ce glissement, il se fait relativement à bas bruit et puis avec une accélération vraiment dans les quelques dernières années. Et puis finalement, une rupture très forte et une sidération hein, de la communauté scientifique aux États-Unis. Même si, après ce moment de sidération, après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et le début des attaques frontales contre les sciences, il y a eu quand même une étincelle, un rebond avec ce mouvement Stand Up for Science. Alors, avec tout ça, et donc de mon point de vue de scientifique et de mon point de vue aussi de militant, la question que je souhaite poser à l'aune de ce qui vient d'être présenté, c'est que faire ? Et en particulier, que faire collectivement face à ces attaques. Alors, il y a tout un tas d'angles qui sont possibles en lien avec les travaux qui viennent d'être présentés. Alors, il y en a un supplémentaire que j'ai noté, c'est le rapport à la jeunesse, qui me semble très intéressant, que j'avais pas encore repéré. Peut-être on aura le temps d'y revenir, parce que je trouve qu'il est très intéressant. Mais je vais peut-être commencer par un point peut-être un petit peu technique, mais c'est, il me semble malgré tout important d'un point de vue politique, c'est la définition des libertés académiques. Donc Eric, dans ce que tu nous as dit et puis dans tes travaux, tu sembles préférer une définition qui est plurielle des libertés académiques, à la fois hein, pour des raisons que tu as évoquées qui sont dans la manière dont elles sont construites, mais aussi comme ensemble de libertés professionnelles qui ont été façonnées ainsi par l'histoire, par les contextes juridiques, sociaux, qui dépendent des pays, des pratiques, etc. Et à l'inverse, certains collectifs, dont Rogue OSR et je crois Labo 1.5 aussi, défendent une définition qui est plus unifiée, on pourrait dire, et c'est celle de la liberté académique, comme constituant une espèce d'horizon commun qui vise, donc ça là-dessus on est d'accord, à garantir l'autonomie du monde académique vis-à-vis des pouvoirs politiques, religieux et économiques. Donc ma question c'est la suivante, c'est est-ce qu'il n'est pas préférable d'un point de vue politique de viser une forme d'universalisme dans la définition de la liberté académique pardon, pour en faire une bannière commune derrière laquelle on peut serrer les rangs, et là je reprends aussi les termes qui sont dans ton article, donc de serrer les rangs dans un contexte d'attaques qui sont généralisées, et j'irai même plus loin, d'attaques qui sont internationales, et encore une fois, dans ce contexte vraiment global, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une définition unique et commune de la liberté académique ? Je te laisse répondre. Hein.
D'accord, pardon, je voulais être sûr de ne pas interrompre.
Ouais, non, mais d'abord. J'ai quelques questions.
Très bien.
Que j'ai fait au fur et à mesure, si ça te
Très bien, ben, c'est parfait, merci. Ben, je réponds brièvement. Je pense qu'effectivement, c'est pas un enjeu de principe. La question, enfin, je veux dire, il peut y avoir des raisons théoriques et historiques, etc., que j'ai essayé de développer. Après, la question, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace. Donc, on est bien d'accord.